Bonjour Amel Bent.
Bonjour.
Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Enchanté, enfin non pas enchanté, on se connaît déjà un peu
oui,
Tom, toi et moi.
C'est la troisième fois qu'on se voit.
Et oui.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête?
Je suis prête. Tu peux passer un coup de fil à un ami?
Amel, ta date de naissance?
21 juin 1985.
La ville où tu as grandi?
La Courneuve.
L'endroit préféré de ton enfance?
La Courneuve.
L'âge auquel tu as commencé la musique?
Officiellement? 17 ans et demi.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Charles Aznavour.
Ton premier succès?
Ma philosophie.
Le nom d'un titre que tu n'as jamais sorti?
Domino.
Le plus beau moment de ta carrière?
Hier soir.
Et on passe en stase. C'était quoi hier soir?
Hier soir, j'ai performé sur la scène des Flammes. Et je dis que c'était hier soir parce que je trouve que, justement, une carrière, ce qui est toujours très beau, c'est quand elle dure. Donc, le plus beau moment, c'est toujours le dernier parce que c'est celui que t'attendais pas, que t'avais peur qu'il n'arrive pas. Et il arrive, tu le vis et tu dis, waouh, encore un. Donc, c'est le meilleur moment, c'est toujours celui que tu viens de vivre, en fait.
Qu'est-ce qui t'a autant ému?
Ce qui m'a ému, c'est de me reconnecter avec peut-être un public qui connaît pas forcément mon histoire, mon passif, mon rapport à la musique populaire, urbaine. Voilà, qui sait pas forcément tout de moi, parce que j'ai commencé il y a un certain nombre d'années. Et moi, je suis une enfant du rap, je suis une enfant du R&B, je suis une enfant de la soul, je suis une enfant du gospel. Et mon chemin artistique, il a été fait de plein de détours, de choix différents, parce que je suis une aventurière, parce que j'aime le fait de m'aventurer aussi dans l'inconnu. Et en fait, là, ça y avait comme une, j'avais comme la sensation d'un retour aux sources et de venir leur dire on peut être un trait d'union, aimer Aznavour et aimer Kerry James, aimer Diams et aimer Jean-Jacques Goldman et être une enfant de tout ça en fait, et de le faire avec mon directeur musical Khalil Mawen au piano, qui a réarrangé des titres, la chorale We Are One qui est une chorale urbaine de base qui est venue poser sur mes premiers albums, mais qui a aussi posé justement sur des titres iconiques de Kerry James comme Banlieusard, etc. C'était une manière de dire ce qui nous rassemble tous ici, c'est notre goût pour cette musique qui nous a permis de rêver, qui nous a permis de changer nos vies, et finalement, peu importe les chemins qu'on va emprunter par la suite dans nos carrières respectives, dans nos vies, il y a quand même ce socle. Et hier, pour moi, hier, je suis retournée à ma base, en fait, et j'étais très, très émue, très fière, de pouvoir chanter mes chansons à cet endroit-là, avec ce public-là, ces artistes qui étaient là. Je me sentais en communion avec eux, j'avais 18 ans, c'était merveilleux.
Carrément, oui.
Ah ouais, ça m'a rappelé mes tout débuts. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de lien entre la musique urbaine, le rap et la variété. C'est-à-dire que comme moi, j'aimais les deux, on a souvent parlé de schizophrénie artistique au début de ma carrière, on me disait en fait, il faut que tu choisisses. Et moi, je voulais pas. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de duos avec des rappeurs sur des projets annexes, un peu aussi sur mes disques. Mais il fallait rentrer dans une case, finalement. Donc, j'essayais quand même de mixer dans mes chansons, de ramener toujours soit un peu de gospel, un peu d'R&B dans ma variété et un peu de variété dans mon R&B. Mais c'était pas aussi simple. Et je crois qu'il y a deux albums qui ont marqué un peu un tournant. C'est Racine Carrée de Stromae et l'album de Gims... j'ai oublié le nom, l'album de Gims qui a vraiment 2011, 2012, 2013, il y a eu un basculement pour moi où tout à coup la variété urbaine est née. Et c'était plus bizarre de mélanger le rap, des sonorités plus pop. Il y a une nouvelle case qui est née dans laquelle moi j'aurais adoré me mettre au moment où je suis arrivée, parce que je trouve que ça me correspondait beaucoup, mais elle n'existait pas.
Ce qu'on appelle la pop urbaine aussi.
La pop urbaine, c'est un espèce de mix de on est des enfants de cette musique-là, de ces nouvelles technologies qui nous permettent aussi d'être submergés de musique aujourd'hui. On n'a pas une radio ou deux radios qu'on écoute, une chaîne de télé musicale. Aujourd'hui, on absorbe énormément de musique, et quand on est artiste, on est nourri de tout ça. Comment choisir quand on aime plein de choses, quand on est sensible à plein de choses et qu'on a envie que... C'est même pas qu'on a envie, c'est que notre corps va vers beaucoup de choses très différentes. Aujourd'hui, on peut se le permettre. Et vraiment, il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Et là, hier, en fait, ce qui m'a... je me suis à nouveau sentie légitime d'être un peu ce trait d'union. Je me sentais à la fois une enfant du rap, une enfant du gospel, du R&B et aussi de la variété. Chanter à 20 ans, qui est ce sample d'Aznavour, cette phrase d'Aznavour, hier encore j'avais 20 ans, mais j'ai expressément voulu chanter les couplets de Diams, parce que pour moi c'est ça qui était fort, c'est de se dire en fait on est là, on est ce qu'on est et on défend notre musique, mais qui est aussi du coup notre histoire.
C'est enfin possible d'être tout à la fois.
C'est enfin possible d'être soi, en fait.
Amel, donc au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que t'aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
C'est une question, vous savez, tu commences fort, hein, Tom, hein. Ça c'est toi, ça. Arrêter le temps. Oui, il y a des moments de liesse, des moments de joie extrême qu'on sait qu'ils sont éphémères, parce que on sait que ces moments sont éphémères. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, il y a certains moments que je voudrais qu'ils durent toujours. Mais est-ce que ces moments seraient si inspirants, si beaux, s'ils duraient? Enfin, je sais pas. Je pense que la vie, elle est faite comme elle est, et si le temps avance, c'est pour qu'on lui donne de l'importance.
Nous allons quand même l'arrêter, ce temps, à minuit une. Ton nouvel album, qui porte très bien son nom, effectivement, on a du mal à percevoir la lumière du jour, car là, tu nous livres un disque particulièrement sombre. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir?
Alors, bizarrement, je le trouve pas sombre, moi, ce disque. Mais c'est vrai que toutes les personnes avec qui j'en parle me disent c'est un disque sombre. Donc, il va peut-être falloir que j'accepte aussi qu'on le perçoive tel quel. Peut-être sombre, parce que c'est un album, effectivement, qui a été fait, oui, à la lueur d'une bougie ou d'un clair de lune. Vraiment, c'est des textes, des thèmes qui me sont venus la nuit, parce que j'avais besoin de ce silence, j'avais besoin de cette solitude, j'avais besoin de ces moments en fait où on est vraiment seul avec soi pour m'expliquer à nouveau les choses, pour me ressonder à nouveau. Donc c'est peut-être cette moi, il y a de la lumière pour moi dans cet album en fait. C'est un peu à l'instar de la chanson Sous l'eau dans Minuit Une, qui dit sous l'eau je respire à nouveau. Je crois que c'est dans les moments les plus sombres qu'on sait ce que vaut la lumière justement, et qu'on a envie d'aller vers la lumière. Donc je sais pas s'il est sombre, moi, cet album.
Je crois qu'il y a une progression quand on l'écoute, hein. Peut-être, ouais, qu'on part sur des postulats un peu plus sombres. Effectivement, tu as parlé de sous l'eau, et puis
il y a un cheminement quand même, vers la lumière. Il y a des issues, toujours. Il y a toujours de l'espoir en fait. Mais c'est vrai que oui, que c'est un album que j'ai créé dans un moment de ma vie qui n'était pas le plus lumineux, j'avoue. J'étais dans une période de deuil, mais on dit que la mort est un rappel. Et donc c'est une phrase qui est quand même pas anodine. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle aussi la valeur de la vie, que les moments de la vie sont, il y a des moments de la vie qui sont précieux, que vivre d'objectif en objectif, ça nous empêche parfois de profiter de ce qu'on a tout de suite maintenant. Et cet album, il a été fait avec tous ces questionnements, toutes ces remises en question de comment, à l'aube de mes 40 ans, je vais envisager, la suite, en fait. Est-ce que je vais le faire comme je l'ai fait, ces 20 dernières années, ou est-ce que je vais essayer de vivre tout ça autrement, de profiter de tout ça autrement? Et cet album, c'est ce qu'il raconte, en fait. C'est comment j'ai envie de faire le point avec tout ce qui m'entoure, le monde qui m'entoure, que ce soit ma famille, que ce soit mon rapport à moi-même, à la musique.
On va en parler en détail au cours de l'interview.
Ok, guide-moi.
La pochette est d'ailleurs très intéressante, hein. Une chambre, toute la famille qui dort, les enfants, ton compagnon, et toi debout malgré tout. C'est un contraste qu'on avait un peu abordé la dernière fois quand on s'était vu. Là, tu viens de l'expliquer de façon un peu positive. Parfois, la nuit, on peut se retrouver avec soi et ça fait du bien. Est-ce qu'il peut y avoir l'autre penchant aussi, ou parfois, quand on a l'impression d'être entouré, on peut se sentir isolé?
Ça, c'était moi avant, quand j'étais un peu plus jeune et j'avais, je manquais forcément un peu de maturité. Je comprenais pas forcément tout ce qui se passait en moi ou autour de moi. La nuit, c'était vraiment une source d'angoisse. La solitude était une source d'angoisse. En fait, je ne voyais pas l'intérêt de la solitude. J'avais pas envie de me retrouver seule avec moi-même, surtout après des concerts où on reçoit tellement d'amour. Enfin, je veux dire, le curseur des émotions, il va tellement haut. La redescente, elle est terrible. Mais le problème, c'est que tu redescends juste à la vie normale. Et comment apprécier la vie normale quand tu vis des trucs tellement puissants dans ces moments extraordinaires de ta vie? Ça a changé. Ça a changé le jour où, à la fin du concert, en fait, quand je rentre à la maison, en fait, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Pour moi, c'est un bonheur immense, en fait, de rentrer à la maison et de retrouver ça. Aujourd'hui, la nuit, ce n'est plus l'angoisse d'avant. Aujourd'hui, la nuit, c'est vraiment des moments où, effectivement, il y a les angoisses, et elles sont toujours là, parce que la vie, elle est faite de ça aussi. Puis en plus, j'ai un petit terrain anxieux, donc j'avoue que... Mais c'est aussi vraiment, après avoir été la chanteuse, la maman, l'épouse, et toutes les casquettes que j'ai et que je suis contente d'avoir, je suis aussi contente de me retrouver seule.
Justement, est-ce que c'est ça la différence entre la solitude et être seule? C'est que la solitude, on ne la choisit pas.
Ah, c'est possible. Hein.
Tu vois, les Anglais, ils ont deux mots. Ils ont alone pour seul et lonely pour être solitaire. Et je trouve que la nuance, elle est quand même assez importante. C'est que quand on peut être, entre guillemets, lonely quand on est entouré, c'est parce qu'on ne le choisit pas, on subit cette solitude. Alors que là, tu vois, tu m'as parlé de maintenant, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent. Et c'est toi qui as quelque part l'interrupteur pour dire, bah, des fois, j'ai envie d'être seul. Mais au cas où, je sais que derrière la porte, il y a quand même des gens.
Oui, mais j'ai envie d'être seule, mais j'ai besoin des moments de solitude. Et parfois, je la ressens. Je la ressens malgré tout, alors que je sais que je ne suis pas seule. J'ai pas juste basculé de la solitude à des moments où je suis seule et ça me fait du bien. J'ai encore toujours ce rapport à la solitude. Et c'est pas tout le temps quelque chose que j'ai décidé. Mais par contre, c'est quelque chose que je lui ouvre vraiment les bras. Ouais, je la subis pas, comme avant. En tout cas, j'arrive à la comprendre,
à la dompter.
En fait, parfois, je passe d'un moment de solitude subi, vraiment. C'est-à-dire que là, je me sens vraiment seule. J'ai l'impression qu'on me comprend pas. J'ai l'impression que ce que je viens de vivre, je vais avoir du mal à l'exprimer, mal à l'expliquer. Et en fait, je vais être juste seule dans mes émotions, là, et dans ma tête. Et puis, de ce moment de solitude, d'ennui, surgit un moment d'espace mental, où mon cerveau chemine, où je me mets à raisonner sur plein de trucs, et je remplis cette solitude d'un moment où je suis seule et qui finalement va me faire du bien.
Minuit une, c'est une indication de temps, une heure, oui. Une notion qui a toujours été présente dans ta carrière à travers des morceaux comme La Fête. Demain, t'as un album et un titre qui s'appelle carrément À 20 ans.
Et Un jour d'été.
Et Un jour d'été, tu vois, j'ai pas fait une liste exhaustive. Tu y as partiellement répondu, mais quel est ton regard vis-à-vis du temps qui passe ?
La notion du temps qui passe a toujours été un truc très anxiogène chez moi. J'ai été très vite trop consciente de la notion de temps, en fait. Ça veut dire que trop petite, j'avais peur que les gens vieillissent et meurent, par exemple. J'avais très peur de ça. J'ai jamais eu peur, moi, de mourir, mais j'avais peur de que les gens que j'aime partent. Je sais pas pourquoi, c'est des trucs que je disais à ma mère, mais trop petit, je veux pas que tu meurs, alors que, enfin, j'étais vraiment petite et ma mère était hyper jeune, enfin. Donc pour moi, le temps, c'est surtout le temps qui va s'arrêter, à un moment ou à un autre. J'ai jamais eu peur, pour moi, en fait, j'ai jamais eu peur de vieillir, là. Il y a plein de gens qui disent, on peut dire ton âge, 40, moi je le chante, mon âge, en fait, je l'ai toujours chanté, j'ai pas peur de l'impact du temps sur moi, en fait. J'ai peur de l'impact du temps sur les autres. Il m'arrive, franchement, il y a des gens qui le savent pas, des gens même connus. Quand je les ai vus à un moment de la vie, on s'est croisés, et je les ai revus quelques années après, comme on dit, ils ont pris un coup de vieux. Moi, il faut que je m'isole et que j'aille pleurer, par exemple. En fait, je me dis, ouais, c'est une dinguerie, en fait. Par exemple, des gens qui ont, par exemple, eu une maladie, et par exemple, je sais pas, qui ont été abîmés par le temps et par la vie.
C'est le côté décadent qui te touche ?
Oui, ça me touche. En fait, comme je sens très fort en moi que il y a plusieurs temps, il y a le temps qui passe, le temps auquel on est tous le fuseau horaire, voilà, officiel, quoi, Greenwich, quoi, tu vois. Et il y a nous à l'intérieur. Moi, quand je vois par exemple des personnes âgées, je suis persuadée qu'à l'intérieur ils ont pas leur âge. À l'intérieur, ils sont peut-être encore hyper jeunes et qu'ils sont bloqués dans un corps qui est devenu un scaphandre et on voit qu'ils peuvent pas, enfin que ça suit plus. Et ça me bouleverse. Et du coup, quand j'étais jeune, je voulais mourir très jeune. C'est vraiment une phrase que je disais. Ma mère, elle pouvait me mettre des claques, quoi. Je dis, moi, je veux mourir avant toi, ou je veux qu'on meure tous ensemble. En tout cas, je veux pas avoir à dire au revoir aux gens que j'aime. Vraiment. Je veux mourir avant tout le monde. Et il y a pas longtemps, j'ai basculé, dans une pensée qui est à l'opposé. C'est-à-dire que maintenant que j'ai des enfants, et surtout que je viens de perdre ma grand-mère, et j'ai cette image où on a pu tous être autour d'elle et lui dire au revoir, je me dis, je voudrais mourir le plus tard possible pour que tous les gens que j'aime puissent me dire au revoir.
Puis il y a peut-être aussi quelque chose d'assez injuste ou frustrant dans cette idée de vieillir ou du temps qui passe, parce qu'on a tellement été conditionné à toujours être mieux que la veille. Sauf que la nature nous rattrape, quoi, et à un moment donné, on sera moins en forme que le jour d'avant, on sera moins...
Ça dépend ce qu'on regarde. Ça dépend ce qu'on regarde. Si on a regardé que le physique, si on a regardé que la performance physique et la beauté, entre guillemets, telle qu'on l'a définie... Dans le mainstream, oui, il y a une décadence évidente. Mais si on la regarde, si on regarde l'âme, si on regarde l'esprit, l'intelligence, l'expérience, l'apprentissage, l'héritage qu'on construit quand on a vécu, les gens qui ont vécu, les encyclopédies vivantes qui sont d'intelligence de pure et d'intelligence de cœur. Mais en vérité, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir, hein. prendre de l'âge, c'est... Moi, j'ai une phrase d'une amie à moi qui est maquilleuse, qui a maquillé Charles Aznavour quelques jours avant qu'il parte. Et elle lui a dit, monsieur Aznavour, je vous repoudre. Il a dit, ah non, non, surtout pas, ne cachez pas mes rides, c'est ma vie. Il y a quand même des leçons à tirer, en fait, de ces personnes qui ont passé 80, 90 ans et qui veulent pas, qui savent que l'essentiel n'est pas là, en fait.
On va revenir au présent.
Yes.
À la toi d'Amel de 39 ans. Je sais pas si c'est volontaire, là, pour le coup. Mais dans la chanson Météore, tu dis, j'ai le mal de l'air. Et dans les paroles que j'ai reçues écrites, R, c'est E-R-E.
Bien évidemment. Ah bah, c'était pas A-I-R.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, j'ai le mal de l'air?
Bah, en fait, il faut se mettre dans ma peau. Cette chanson, elle me vient. Je suis sur mon petit balcon en train de regarder le ciel, qui est au départ une source d'angoisse pour moi. Parce que regarder l'immensément grand nous rappelle à quel point on est infiniment petit. Et puis parfois, oui, ça te fait un petit peu délirer, en fait. Quand ton cerveau essaye de quantifier cette immensité et ton, à quel point t'es rien, en fait. Et tout à coup, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas, à côté de la plaque, dans notre perception de ce qu'on est, nous. On vit dans un monde où on a l'impression qu'on compte. Vraiment. Et moi, dans ces moments-là, je me dis, mais on va pas bien, en fait. Je sais même pas comment j'ai réussi à en faire une chanson, tellement je suis dans l'existentiel, dans l'abstrait, dans de la pensée qui part et elle va jusque là où je regarde. Mais je trouvais que c'était intéressant de le chanter, d'essayer de partager ça. Et le mal de l'air, c'est ça, en fait. C'est de se dire, est-ce que mon humanité, l'humanité aujourd'hui, regarde parfois comme moi, là, je suis en train de regarder. Est-ce qu'ils se disent la même chose que je suis en train de me dire là? Est-ce qu'on prend de la hauteur sur notre insignifiance? Et comment on arrive à se faire la guerre? Comment on arrive à nous faire du mal les uns les autres? À faire du mal à notre planète? À faire du mal aux enfants, au monde des enfants, au monde des animaux? Je me sens connectée à quelque chose qui me rappelle à quel point on est con, en fait. Et puis après, évidemment, tu t'endors et puis tu te réveilles le matin et puis tu redeviens un con comme tout le monde. T'as l'impression d'être le nombril du monde, que tes petits problèmes sont les plus importants. T'es pas bien, tes trucs, tes petits bonheurs, tes petites joies, et t'oublies, en fait. T'oublies que ça va aller très très vite, que à l'échelle de l'âge de la Terre et ta petite existence, elle compte pour toi, mais en vrai, voilà. Je sais pas si ce que je dis, ça a du sens, mais en même temps, un météore, ça a pas de sens. Dire que tu voudrais monter sur un météore pour voir ce qui se passe, pour regarder la Terre de loin.
Oui, mais ça me rappelle une chanson.
Viser la Lune.
Oui. Non.
Non.
Oui, mais non.
Oui, mais non.
Non, mais tu m'en avais parlé la dernière fois, c'est Dust in the Wind.
Eh ouais, une poussière dans le vent.
Une poussière dans Kansas. Le vent, en fait.
En fait, je pense comme tout le monde, je suis partagée entre kiffer ma vie, le moment présent, et donner beaucoup de sens à mon existence, mes envies, mes chagrins. En plus, je fais un métier qui me le permet vraiment, pour le coup, et me dire, peut-être que je suis à côté de la plaque et qu'en fait, il faudrait que je fasse complètement autre chose pour être utile, en fait. Plus utile que, en tout cas, qu'une chanson.
C'est toujours très utile, une chanson.
C'est vrai. Mais je me dis, est-ce que si j'étais à l'autre bout du monde en train d'essayer d'aller aider des gens qui ont des beaucoup plus gros problèmes que ma paperasse de 2004 à trier, voilà. Oui, je me remets en question, en fait. Je veux dire, je suis pas... J'ai même pas des œillères en pensant que ma petite existence, elle a vraiment beaucoup d'importance. Je remets le curseur au bon endroit de temps en temps. Il faut savoir ce qu'on est.
Amel Bent, je te propose de remonter le temps et d'explorer ton passé.
Oh my gosh.
Tu l'as un peu abordé, tu vois. Dans Décharge mentale, tu dis, il y a des trucs, pourquoi je les garde, des souvenirs que j'entasse. Est-ce que parfois t'as tendance à ressasser le passé?
Ah mais je suis carrément une radoteuse. Mais mon ancien manager, il m'appelait Papy Mougin.
Ah.
En fait, ça fait partie de peut-être de ma personnalité. Je suis pas un peu anxieuse ou avec des espèces de petites obsessions. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, en fait, il faut que j'aille au bout du sujet. Même un sujet qui n'a, en fait, tout est important. Alors c'est fatigant pour moi et pour tout le monde. Mais par exemple, s'il y a un truc qui a été mal dit ou qui a été mal fait, ou il y a un truc que j'ai pas compris, même si c'est pas important, même si entre-temps, enfin c'est passé, moi il faut que je revienne dessus, il faut que je repose les bases, en fait je saoule tout le monde, et je me saoule moi là, parfois je me dis mais en fait ça fait 2 heures que t'es en train de parler d'un truc qui n'a aucun impact sur la vie de personne, c'est pourquoi tu veux absolument aller au bout du... C'est ma façon à moi d'équilibrer mon petit monde, d'avoir l'impression de mettre un peu de justice dans l'injustice. J'ai envie qu'à la fin, tout le monde soit ok vraiment avec ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Alors qu'il y a plein de gens qui passent à autre chose et je me dis, mais ils ont tellement raison.
Ouais, il faut que tout soit d'équerre, quoi.
Ouais, tout soit, voilà, mais c'est ça, en fait. Je sais pas d'où ça vient, mais Et ça s'aggrave en plus.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Avec le temps, ça s'aggrave?
Ouais.
Mais non, mais je crois que c'est parce que peut-être que t'aimes pas l'ambiguïté.
Ah, mais en fait, pour moi, l'ambiguïté, c'est une injustice verbale. Et je me dis surtout, une petite ambiguïté sur une autre, en fait, ça peut dégrader même une relation humaine, en fait. Et c'est vrai que, bon, quand tu sais que c'est une relation éphémère, une rencontre comme ça, la personne, tu la reverras plus jamais, j'avoue, ça sert pas en vrai. Et encore que, tu sais pas ce que tu vas laisser à quelqu'un. On sait pas les gens, leur niveau de, bah, justement, de sensibilité. Moi, il y a des trucs qu'on m'a dit une fois, des gens que j'ai jamais revus, je me rappelle de leurs mots, en fait. Ça m'a touché, ça m'est resté. Parfois, j'ai mis du temps à me délester d'un truc qu'on m'a dit. Une personne que, franchement, sur le papier, c'est pas censé me marquer. Par exemple, moi, j'ai rongé mes ongles jusqu'au sang. Voilà. Un jour, il y a un mec dans un restaurant. Je dois avoir 22 ans, 23 ans. Je sais plus. Je suis en train de payer l'addition. Il est à côté de moi pour venir payer son addition. Un mec costard, cravate. Il me regarde. Il me dit :« Vous êtes vraiment une femme, une artiste merveilleuse. Mais si je peux me permettre, c'est dommage vos ongles. » Je dis : « Pardon ? » Il me dit : « Oui, je vois que vous rongez les ongles. C'est vraiment dommage. » Il m'a dit : « Moi, je regarde beaucoup les mains. » Et je vois vos mains et c'est dommage. Ça veut dire que ma mère, depuis que j'ai 8 ans, elle me met de l'harissa sur mes doigts pour pas que je mange mes ongles jusqu'à l'infection. Des vernis qui piquent, on a tout essayé. J'ai jamais réussi à arrêter. Et ce monsieur que je n'ai jamais revu, je peux même pas vous dire à quoi il ressemble. C'est-à-dire que je suis rentrée, je n'ai plus, à 22 ans, je n'ai plus jamais rongé mes ongles. Sa phrase, en fait, je me suis dit, oh, il m'a dit des choses tellement gentilles et derrière, il a vu ce truc-là. Ça m'a perturbé, ça m'a marqué. Donc tout ça pour dire que quand on dit quelque chose, c'est pas rien. Ça peut marquer les gens.
Ah oui, ça laisse une trace, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon. Tu es né à l'hôpital Bichat,
oui,
dans le 18e arrondissement de Paris.
Porte de Saint-Ouen.
Tout à fait. Comment parlerais-tu de ton enfance?
Bah, elle a été marquée par une séparation, donc celle de mon père et de ma maman. Donc forcément une maman un peu éprouvée, qui a pris sa fille sous le bras et voilà, qui a dû réinventer, réécrire son histoire. Et moi, j'ai absorbé ça comme j'absorbe tout. On était une petite équipe, quoi, toutes les deux. Donc, je pense que ça a beaucoup conditionné la femme que j'allais devenir. C'est-à-dire tout de suite très responsable, très, très forte, très... la vie va vraiment te mettre des baffes. Il va falloir être prête, en fait. Et toute petite. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'amour de ma maman. Elle a vraiment beaucoup contribué à ce que les difficultés de la vie ne m'impactent pas plus qu'elles le devraient. Et ça, c'est un cadeau. Et puis après, j'ai grandi dans une famille recomposée. J'ai eu un beau papa et par la suite une petite sœur et un petit frère. Je pense que c'est la deuxième partie de l'enfance qui a été déterminante pour la suite. C'est-à-dire que moi, la famille recomposée, ça a été dur pour moi. Ça a été dur parce que j'avais déjà forcément ce petit terrain un peu anxieux. Je portais déjà un peu de chagrin et un peu de gravité de par ce qu'on avait déjà traversé avec ma maman, déjà toute petite. Et puis ce schéma familial un peu bizarre où par exemple, ma petite sœur et ma petite sœur quand elle est née, en fait, j'avais 8 ans. Et par exemple, je savais que le fait qu'elle porte pas mon nom, le même nom de famille que moi. Moi, c'est un truc, ça m'a perturbé en fait. Et comme je me posais déjà trop de questions sur la vie, la mort, etc. En fait, mes cauchemars à 8 ans, ce que je disais à ma mère avant de m'endormir, c'était « Maman, si tu meurs... » Toi, je peux pleurer par contre. Je disais « Maman, si tu meurs, est-ce qu'ils vont me croire que c'est ma sœur ?» Parce qu'on n'a pas le même nom. Et je voulais pas que ma mère se marie parce que je voulais pas qu'elle aussi porte leur nom et pas moi. Donc c'était mes angoisses de petite fille de 8 ans. C'était qu'il fallait absolument que ma mère reste en vie parce que sinon j'allais être l'enfant de personne et la sœur de personne. Personne n'allait croire que j'ai une famille, quoi.
T'avais une attache à l'identité.
Oui. Et mais je pense que ma mère s'est pas mariée à cause de moi parce que c'est, moi ça allait m'achever en fait. Et j'avais peur qu'on me laisse pas, enfin je disais quand ma sœur va grandir, est-ce que quand j'irai la chercher à l'école, ils accepteront de me la, est-ce qu'ils me croiront que je suis sa sœur? Enfin vraiment là je te dis mes angoisses d'une petite fille de 8 ans qui en fait c'est pour moi la famille recomposée, c'était ça. C'était pas c'est génial, on se recompose. Non, pour moi c'était quelle va être ma place? Est-ce que je vais avoir une vraie place dans ce foyer en fait? Et puis au final ce qui m'a sauvée, c'est bah justement l'amour que j'ai avec ma petite sœur. Puis par la suite, mon petit frère, en fait, je me suis rendu compte que, avec le temps, qu'on s'en fout du nom, on s'en fout d'être demi. Moi, les gens, quand ils me disaient « Ah, c'est ta demi-sœur », je disais « Non, c'est ma sœur, en fait ». supporte pas ma demi-sœur. Et c'était violent même qu'on me dise demi-sœur, ça voulait dire quoi en fait, que on s'aimait à moitié, que enfin c'est comme j'étais déjà très sensible et très consciente, je pensais à des trucs qui étaient peut-être pas logiques, si rationnels que ça. Et bon, en fait ça m'a forcé à en tout cas à créer des liens très puissants que j'ai toujours. Ma sœur par exemple, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que je pense que si on avait eu le même père et dans une autre vie, peut-être qu'on n'aurait même pas été aussi proches, en fait. C'est que j'avais tellement peur que ce soit pas comme si c'était ma vraie sœur entièrement. Que voilà. Donc la famille, d'une manière générale, les liens familiaux, c'est devenu quelque chose de vital pour moi. Il fallait que vraiment, tous les jours, on me prouve qu'il y a un vrai attachement et qui est réel, qui ne va jamais se casser. Et ça, pareil, avec ma grand-mère, avec mes tatas, avec mes cousins, mes cousines, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Parce que les liens familiaux, moi, c'était vital pour moi. Il fallait que j'appartienne à
une communauté, à une tribu.
À une tribu.
T'as un peu répondu à la question que j'allais te poser.
Désolée pour les moments d'émotion, mais c'est des trucs que j'ai jamais forcément abordés aussi.
Mais t'excuses pas.
Mais en ce moment, j'aborde. En ce moment, je suis...
J'ai vu ça, c'est pas drainant d'ailleurs.
Ça me fait trop du bien en fait.
Ouais.
Mais c'est l'album, hein, c'est Minuit Une qui veut ça. Minuit Une, vraiment, c'est un album d'introspection qui m'a fait aborder des choses que j'avais jamais abordées de cette manière-là. Et du coup, comme par le biais de cet album, je me retrouve à parler de ces choses-là aussi de manière plus authentique. Et franchement, en fait, ça me fait du bien. Et puis les retours des gens me font du bien parce qu'il y a plein de gens qui ont grandi comme moi avec ces petites douleurs d'enfants qui traînent, de familles recomposées. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément beaucoup. Alors que ça change une vie, en fait, ça change une trajectoire, ça change les gens. Et ben moi, du coup, je me dis peut-être qu'il faut en parler. Il y a peut-être des gamines comme moi, là, 8-9 ans, qui vont se dire « Ah ben, c'est exactement ce que je traverse et c'est normal de sentir ce que je ressens. » Et voilà.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'enfance? Parce que je sais que l'insouciance t'a vite quitté. Je me souviens, quand on s'était vu la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais née avec une forme de chagrin.
Oui, je t'avais parlé surtout d'une étude scientifique qui disait que il a été prouvé qu'on peut naître avec des chagrins qui sont pas les nôtres, ceux qu'on n'a même pas encore vécu en fait. Et c'est vrai que j'étais une petite fille grave en fait. Quand je dis grave, ça veut pas dire que j'étais pas une petite fille faux-folle. J'ai toujours été un fanfaron. Hein. J'adore l'humour, j'ai vraiment une vraie joie de vivre. Mais peut-être que c'était un peu à outrance pour justement masquer une vraie... Je sais pas, j'avais comme une douleur qui, dès qu'il y avait du silence, dès que je me retrouvais un petit peu seule, même petite, je sais pas pourquoi j'étais triste. Je sais pas, j'étais une petite fille triste en fait.
Il y avait quelque chose de latent.
Ouais, c'était là. Alors je le disais pas tel quel, je savais pas que c'était ça le chagrin. Et en grandissant, en fait, maintenant que j'ai vécu moi ma propre vie et que j'ai vécu mes chagrins, je me rends compte que j'avais du chagrin. Enfin, j'ai identifié ce que je ressentais, en fait, depuis toujours. En fait, j'ai toujours eu du chagrin. Mais peut-être parce que je ressentais aussi très fort le chagrin des autres. Peut-être que je ressentais la vie de ma maman, ce qu'elle avait traversé. Peut-être que j'écoutais trop aux portes aussi, j'étais trop curieuse. Peut-être que j'ai entendu trop d'adultes parler et que j'ai trop vite compris de ce qu'ils racontaient. Peut-être que... Je sais pas. En fait, c'était un mélange de curiosité et de lucidité qui fait peut-être j'ai trop vite été... En fait, c'est comme si j'étais trop vite dans le monde des adultes, en fait.
Est-ce que c'est lié de près ou de loin au haut potentiel intellectuel qu'on t'a diagnostiqué assez tardivement?
Je pense que c'est plus émotionnel qu'intellectuel. Je sais pas. En tout cas, de savoir que tu peux avoir une qualité, entre guillemets, d'intelligence, c'est-à-dire de raisonner d'une certaine manière qui fait que c'est une chose. Après, moi, ce que je ressens surtout en moi, c'est pas forcément de l'intelligence ou une qualité d'intelligence, c'est que j'ai des capteurs qui sont trop ouverts, en fait. Parfois, je suis en décalage avec ce que je ressens, je suis en décalage avec ce que je suis en train de traiter dans ma tête. Je peux être en train de parler avec quelqu'un et en même temps traiter une information à côté et repenser. C'est n'importe quoi. J'arrive pas à faire un truc à la fois, par exemple. En fait, j'arrive à me concentrer en étant multistimulé. Et ça, je sais que c'est perturbant pour les gens. Ma concentration, elle est dans la déconcentration. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait que je déconnecte des parties de mon cerveau pour que d'autres puissent être optimales. Et même quand je chante, par exemple, en fait, je sais que là où j'arrive à être performante, même vocalement, etc., c'est quand j'ai déconnecté des endroits de ma tête, par exemple. En fait, j'ai besoin d'être presque en transe. C'est-à-dire que si mon cerveau, il est en train d'analyser ce qui est en train de se passer, le technicien qui vient de passer avec sa caméra, la personne qui me regarde là-bas, qui a l'air de m'avoir jugé, en fait, je me ferme, c'est fini. Même ma voix, elle veut pas sortir. Je me bloque. C'est-à-dire que je ne peux même pas pratiquer mon art sans avoir au préalable conditionné mon cerveau. J'ai comme des espèces d'habitudes, des rituels pour que mon corps comprenne que là, il va falloir qu'on déconnecte pour que je puisse chanter, par exemple.
Bah alors, vu que là, on est au lendemain des flammes où tu as chanté, quel a été ton rituel? Qu'est-ce que tu as fait?
Hier, j'ai expressément, et toute mon équipe le sait, j'ai dit j'ai vraiment besoin de recréer ma journée quand je suis en tournée. C'est-à-dire que quand on est en tournée, on te fout la paix. Je dors dans un tourbus. Le matin, j'ai pas... C'est horrible ce que je vais dire, mais je les aime de toute ma vie. Comme il dit, je t'aime de toute la journée. Je pense à mes enfants. Mais le matin, je dors. J'ai pas d'enfants à préparer, d'amener à l'école, etc. Donc je peux dormir un peu. C'est pas le réveil à tôt le matin. Et on sait que les chanteurs, on a besoin d'un repos, pas physique, hein, mais vocal, qui est évident. Si t'as dormi 5 heures, tu chantes pas comme quand t'as dormi 10 heures. Donc là, le tourbus, je me lève quand je me lève. C'est un réveil naturel. Toute la journée n'est que sur moi. Enfin, moi, c'est-à-dire, je me concentre sur moi, sur ma musique, sur ma voix. J'ai vraiment ma régisseuse qui me fait un espèce de thé au miel, au thym. Rien que l'odeur du miel et du thym, mon corps sait qui va chanter. Je me prépare seule, donc ça grouille pas autour de moi comme sur un plateau télé où il y a du monde, il y a plein de loges. Là, j'ai une loge, c'est moi. Tout est fait pour que mon cerveau se prépare au concert. Et il y a des espèces d'informations que mon corps capte et il se met en chanteuse. Même c'est physique, c'est mon diaphragme qui redescend, mon larynx qui doit avoir une position particulière pour chanter, il doit être bas. Et en fait, quand t'es un peu stressé ou que t'es pas complètement détendu, ton larynx il est en haut, un peu comme quand t'as envie de pleurer, tu sais, t'es un peu serré. Et moi, ça, plus ça va, plus si j'ai pas tout ce conditionnement, ben en fait je suis tout là-haut, quoi. J'arrive pas à me détendre. Et donc hier, pour les flammes, j'ai vécu une journée de concert. J'ai demandé à ma régisseuse de tourner, de venir. J'ai demandé à me maquiller toute seule, à m'habiller seule. J'avais pas de styliste, pas de maquilleur. J'ai dit, je veux me faire ma prépa comme quand je vais rentrer sur scène et voir les gens qui ont payé pour me voir, qui m'aiment, en fait. Et ça, mon corps va se rappeler de toutes ces choses que je fais les journées de concert et il va se mettre dans ce conditionnement. Et je sais que je vais être bien. Je sais que le larynx, il va descendre et que le diaphragme va descendre et que je vais être dans mon mood, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais trop bien.
L'importance du rituel.
Ouais, c'est du rituel ou en tout cas c'est des informations que t'envoies à ton cerveau surtout.
On va parler de ta carrière parce que là tu vois on l'a déjà un peu abordé. Mmh. En ce moment c'est un peu particulier car tu célèbres tes 20 ans de carrière, notamment à travers une tournée l'année prochaine. Ça représente quoi 20 ans de carrière pour toi?
Alors je fais une petite rectification. En fait c'est les médias qui parlent de 20 ans de carrière. Mais moi je célèbre pas mes 20 ans de carrière. Vraiment. C'est-à-dire que moi je célèbre Minuit Une, c'est le dernier projet. Quand j'arrive avec Minuit Une, j'arrive pas avec les 20... Enfin, sur le papier, oui, il s'est passé 20 ans avant Minuit Une. Mais moi, j'arrive pas avec mon bagage de mes 20 ans. Moi, j'arrive, je remets ma peau sur la table. C'est mon premier album, en fait, là. Et en vrai, qu'il y ait eu 20 ans avant, j'ai quand même l'impression qu'à part... Même si on le dit, on s'en fout, en fait. Ça ne m'aide pas d'avoir eu 20 ans avant de carrière. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as 20 ans de carrière que ton titre, il va rentrer à 7 fois jour sur toutes les radios. Quand on dit ça, moi, j'ai l'impression que ça enlève un peu la... comment je me bagarre en fait sur le projet du moment, comment je me remets un coup de pied au cul, pardon de l'expression, mais comment je vais chercher une façon à la fois de me réinventer et en même temps d'être complètement honnête et authentique avec les gens qui vont m'écouter. Enfin, je veux dire, mes 20 ans de carrière avant, à part les avoir vécus et avoir eu l'expérience et la joie de les vivre et tout ça, ils me servent pas en fait là. Donc en fait, c'est pas ça que je célèbre moi.
Alors, qui a commencé à parler de ça? Parce que c'est vrai qu'on le voit partout. Hein.
Bah, c'est les médias. En fait, ça fait vraiment 20 ans que je suis là. Donc, c'est un fait. C'est un fait, mais c'est un tout nouveau projet, c'est un tout nouveau commencement, c'est une autre histoire. Je dis d'autres choses, je dis les mêmes choses peut-être, mais d'une autre façon. C'est un nouveau départ, un disque. En fait, c'est une nouvelle aventure. Et là, je repars tout à fait vraiment à zéro. Mais tout est nouveau. C'est-à-dire que, entre-temps, même l'industrie évolue. Il y a des nouvelles règles, on te dit que finalement il faut pas faire des clips à 50 000 euros parce que en fait on regarde de moins en moins les clips, on est sur des visuels qui durent 30 secondes, c'est la génération TikTok, c'est les images qui vont vite. À un moment donné, fallait faire des interviews tac au tac, ambiance un peu combini, couleur, c'est quoi ta couleur, c'est quoi ton plat, c'est quoi ton truc, c'est quoi machin. Maintenant on te dit on est revenu au podcast, les gens veulent des interviews très longues. À chaque fois que t'arrives avec un nouveau projet, le monde il a changé en fait. Entre-temps t'as l'IA, le son en radio c'est pas le même. ce qui était très à la mode sur ton album d'avant, c'est déjà has-been, en fait. Il faut déjà sortir autre chose. Il y a plus d'album. Moi, je me prends la tête à faire un album où vraiment, je passe des nuits entières à me dire comment je vais enchaîner mes 11 chansons. Je me mets l'outro d'une chanson et l'intro de l'autre pour que ça sonne, pour que dans la tonalité, on n'ait pas un choc, pour que dans la sonorité, on n'ait pas un choc, pour que dans le sens... Moi, je mets la norme avec mauvais rôle parce que c'est la maman qui parle aux enfants, puis après, c'est l'enfant qui parle avec sa maman. Je sais qu'il y a 3 personnes qui vont écouter l'album vraiment de la track 1 à la track 11. Les gens, ils vont prendre une chanson sur une playlist d'une plateforme. Donc, en fait, à quoi ça me sert d'avoir eu 20 ans de carrière? En fait, ma carrière, il y a 20 ans, c'était pas le même monde, c'était pas la même musique, c'était pas les mêmes médias, c'était pas le même public. Je sais même pas à qui je m'adresse aujourd'hui. En fait, j'ai hâte d'aller en tournée pour savoir qui est mon public. Je sais que j'ai une base que je vois souvent, qui me parle. Mais c'est... En fait, j'ai pas 20 ans de carrière. J'ai 2 jours de carrière, là. Je repars à zéro.
Un défi, un peu?
Mais bien sûr que c'est un défi. Et en même temps, il y a du bon aussi. Avant, si tu ratais ton premier single ou ta sortie d'album, bah on te disait ton album, il a planté, c'est fini. Aujourd'hui, tu peux envoyer un titre, il revient dans ton disque. Tu peux envoyer 4 titres dans la semaine, si tu veux, en fait. T'as une espèce de c'est des nouveaux codes, c'est une nouvelle façon de en fait on pourrait ne plus jamais faire d'album. En fait là si je voulais minuit une n'existe pas en fait. En fait je peux envoyer un titre pendant les 20 prochaines années en me disant sur les titres que je vais envoyer, il y en a un qui va prendre de fou et voilà et c'est génial. Donc là j'ai décidé de raconter une vraie histoire parce que j'ai vécu une vraie histoire mais c'est peut-être mon dernier album en fait. Peut-être qu'en fait je vais faire que des chansons, peut-être que ce sera minuit une toute ma vie là. Je sais pas.
On t'a découverte avec La Nouvelle Star.
Oui.
Mais ça serait faux de dire que c'était vraiment le début pour toi. Mmh. Car avant cette participation, il y a eu de nombreuses tentatives et des castings qui ne sont pas toujours bien passés.
Oui, bah, de toute façon, le monde du casting, et je pense encore plus à l'époque, était terrible. Hein. C'est-à-dire que c'était très cash, on te disait des choses. Il y a quelques questions en arrière, on parlait des mots qui restent. Moi, il y a des mots qui m'ont collé à la peau et qui m'ont enlevé... beaucoup d'espoir, l'espoir que en plus j'avais que ça pour le coup, c'est-à-dire que j'ai tellement fait de casting où j'avais pas les moyens d'avoir un PBO, un instrumental, donc déjà parfois j'arrivais, je commençais à chanter, ils me disaient mais vous avez pas votre instrumental, je disais bah non, ils me disaient ah, non désolé, a cappella non quoi, donc tu vois t'as des trucs où on te ramène à ta condition sociale, on te ramène au fait que t'as juste ton chant en fait pour toi et ton rêve en fait. Et ça, c'est des trucs, tu te confrontes vite à la réalité. Les gens qui parlent de ton physique, qui te disent « Ah, c'est dommage, parce que vous avez un vrai truc, un vrai univers, une voix vraiment particulière et tout, une émotion. » Mais moi, je vous vois mal arriver devant une maison de disques. Ils mettront pas d'argent sur un projet avec votre silhouette, par exemple. T'as 16 ans, enfin, tu vois. C'est pas pour rien que je dis « j'ai des formes et des rondeurs », ça sert à réchauffer le cœur. En fait, je le dis vraiment pour soigner mon cœur, en fait, dans ma philosophie. Parce que c'est des trucs qui m'ont... J'étais déjà complexée, ça m'a... Je me suis dit, déjà, je suis complexée dans la vie normale, alors dans cette vie d'artiste dont je rêve, mais il n'y a aucun monde où on va me laisser monter sur scène, en fait, parce que je suis grosse. Ils ne m'accepteront jamais. Enfin, vraiment, il y a des gens qui te disent des trucs. Moi, je me rappelle, ma tête collée sur la vitre du RER en rentrant, j'avais fraudé le RER, 1h30 de RER pour aller chanter, et tu prends cette phrase-là, toi, tu crois que tu vas changer ta vie, et en fait, on te dit juste, va faire un régime, t'es trop grosse, quoi. Et tu pleures dans ton RER en te disant, mais finalement, c'est peut-être même pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors qu'en vrai, au fond de toi, oui, c'est ça que t'as envie de faire, mais... Voilà, vous n'avez pas l'étoffe d'une star, ou enfin, des phrases. Et puis après, oui, il y a des gens bienveillants quand même qui t'écoutent, qui disent « Non, mais toi, il faut que tu fasses quelque chose, reviens, bats-toi, lâche pas. » Bien sûr qu'il y a des gens que j'ai croisés qui m'ont donné de la force. Puis il y a eu Nouvelle Star, où vraiment, c'était le dernier. Là. C'était le dernier, vraiment, parce que déjà, c'était l'année du bac, et puis que moi, je rêvais de faire des études, j'adorais l'école, et j'ai senti en fait que là, j'allais passer un cap. Que si j'enchaînais pas le bac avec la fac, avec le truc, et que je continuais à faire ce que je faisais, c'est-à-dire négliger l'école, à vouloir faire des castings, me coucher à 2h du matin parce que je prépare des chansons, parce que je prends le dernier métro pour aller chanter dans des boîtes de nuit à l'autre bout de Paris, de ma banlieue et tout. Enfin, j'avais pas le temps de réviser, je faisais un bac S, spécialité physique, ça demandait quand même de la rigueur que j'avais plus du tout. Mes notes, elles chutaient, ma mère, elle me prenait la tête. Elle me disait, mais tu te rends compte, il y en a des millions comme toi, en fait. Tu vas gâcher ta vie. T'étais brillante, elle me disait, ma fille. Il y a encore un an, t'étais première de la classe. T'avais 19,5 de moyenne générale. là, j'étais en dessous de la moyenne, quoi, en terminale. J'arrivais plus à... En fait, j'étais vraiment dans un dream, quoi. Au bac, je suis arrivée en retard. La veille, j'étais en casting.
Ah oui.
Et heureusement que j'ai passé le bac dans mon lycée, ce qui est absolument rare. On le passe souvent dans un autre lycée. Et la proviseure, elle me faisait chanter déjà à la base dans le lycée. Elle savait que j'étais la chanteuse du lycée. Je faisais des concerts dans la cour, dans les toilettes. Et je suis arrivée, je lui dis, je suis désolée. Elle m'a dit, vous étiez en casting. J'ai dit oui. Elle me dit, va vite, je t'accompagne dans la salle d'examen. Je suis arrivée en retard au bac parce que la veille, j'étais en train de chanter Hero dans une boîte, je sais pas où, quoi. Et Nouvelle Star, c'était le dernier. Parce qu'en fait, si je rate le bac, et puis il faut que j'aille au rattrapage, et puis si je le rate, il faut que je refasse une année de terminale et tout. Bah, je vais pas refaire une année de terminale indéfiniment en faisant des castings, et je sais que je vais tout rater parce que je serai jamais centrée, en fait. Donc c'était le casting vraiment de la dernière chance. Ma mère, elle me l'a dit, elle m'a dit, je t'explique. T'y vas, si tu reviens, et voilà. En fait, c'est terminé. Vraiment, je t'enchaîne, en fait. Tu n'iras plus faire de casting. Et je suis partie, le cœur gros, quoi. Et je pense que quand j'ai chanté La Bohème, j'ai chanté avec... j'avais vraiment le cœur gros, quoi. Je crois qu'ils ont senti l'émotion qui n'était pas que la chanson.
Est-ce que tu te souviens de ton premier passage en radio ?
Oui. Ma maison de disques à l'époque, Sony, Lauriane Dimosi, que j'embrasse, mon équipe de l'époque, m'annonce que mon titre est rentré en playlist et qu'ils vont commencer les passages cette soirée-là. J'appelle tous mes cousins, toutes mes cousines et tout. Je dis, c'est un truc de fou, ma chanson, elle rentre en radio. Normalement, elle va passer toutes les deux heures. Et du coup, ma cousine, qui était la seule qui avait le permis, qui était plus âgée que nous, elle est venue nous chercher dans sa Twingo. On est monté à 8 dedans et on a dit, on fait un Paris by night et on attend que ça passe à la radio. Et on tournait sur les Champs-Élysées. Vraiment des, tu sais, les banlieusards à Paname. Et on roule et on est vraiment genre sur l'avenue des Champs. Et les premières notes de la harpe de Ma Philosophie commencent. C'est un moment gravé dans ma mémoire. C'était une... Tu sais, quand t'es persuadé qu'il n'y aura jamais rien après ce truc-là, en fait. Tout le monde disait, oui, les artistes des télécrochets, c'est des artistes, comme ils disaient...
Éphémères.
Ils étaient plus durs avec les mots. Artistes mouchoirs, ou je sais plus comment ils disaient.
Jetables,
ouais. Mouchoirs jetables, ou un truc comme ça. Donc en fait, déjà, si t'avais un single, c'était une dinguerie. Moi, j'ai pas gagné, en plus. Donc déjà, j'ai signé dans une maison de disques, c'était fou. Et que mon single passe à la radio, c'était dingue. Et en plus, je me disais vraiment, c'est le premier, ce sera peut-être le dernier. Donc, je l'ai vécu pleinement, ça. Voilà.
Avant qu'on passe à la suite, s'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui ?
Bah là, tout de suite, Bah, ma grand-mère, bien évidemment, paix à son âme. Évidemment. Même pour une minute, là. Mais bon, ça n'existe pas, donc voilà.
Qu'est-ce qui n'existe pas ?
Bah, de refaire revenir les gens, c'est pas réaliste, c'est même pas une pensée qui me viendra à l'esprit, tu vois.
Bien sûr.
J'accepte. C'est comme ça, c'est la vie. C'est Dieu qui donne et qui prend.
Amel, on a fait le présent, le passé, que nous reste-t-il ?
Évidemment, le futur. Non.
Sais-tu enfin pourquoi t'existes ?
Toi, t'as écouté l'album, toi.
Ah oui.
Bah, j'existe parce que Dieu l'a décidé. Moi, j'ai la foi, je suis croyante. Donc, franchement, la raison de mon existence, elle m'échappe. Ce que je sais, c'est que on a forcément tous un chemin, une voie sur laquelle on avance. Je sais que j'ai mon libre arbitre, mais que j'ai aussi un destin. Donc, je crois au destin et je crois aussi à ma capacité à, en tout cas, essayer de faire les meilleurs choix possibles. J'espère qu'à la fin de ma vie, je me dirais, sur mon chemin, j'ai pas fait que de la merde, quoi. Mais je parle pas de la musique, hein. Je parle en tant qu'être humain. Il y a pas que la musique, tu vois. Mon comportement vis-à-vis des gens. Est-ce que j'ai eu un bon comportement? Est-ce que j'ai eu un bon comportement vis-à-vis de ma famille, de ma maman, de mes enfants? Parfois, on veut te mettre un peu au-dessus des autres, voilà. Et moi, ça, c'est pas du tout mon éducation, c'est pas du tout. Alors, je me bats entre apprécier le fait d'avoir des privilèges dus à la vie extraordinaire qu'est la vie d'artiste. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je me bats pour garder la tête vraiment sur les épaules et me rappeler que je suis pas mieux que qui que ce soit et qu'il faut que j'ai un bon comportement.
Alors, effectivement, oui, j'ai écouté l'album. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien, je te pose la question parce que c'est aussi la question que tu te poses dans Personne.
Je la pose à Dieu.
Voilà. C'est une belle chanson qui traite également de l'après. Parce que tu écris, j'ai peur qu'on m'oublie, qu'on m'efface.
Ça, c'est dans un moment de solitude. Quand t'es tout seul et que tu te sens seul et que t'es dans un vrai moment de solitude, tu te demandes vraiment à l'instant T si là, tout de suite, quelque part, il y a quelqu'un qui pense à toi. Ou si on t'a effacé, on t'a déjà oublié parce que t'es pas là à faire du bruit pour dire que t'existes. Tout le monde se pose cette question. Le jour où je suis plus là, est-ce que je vais briller par mon absence ou tout le monde s'en fout, en fait ? tout le monde va juste me zapper. C'est des questions qui m'arrivent de me poser dans des moments de solitude. Ouais. En fait, tu vois, ma mamie, quand elle est partie, je me suis dit un truc, et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, hein, c'est que, bien sûr, t'as le chagrin et tu voulais pas que la personne parte et tout. Et puis après, tu te dis, mais quand même, merci, mon Dieu, elle a eu une longue vie. Et puis surtout, de partir à un âge où il y a toute ta famille qui est autour de toi et voilà, d'une manière, entre guillemets, paisible. Je me suis dit, mais en fait, c'est tellement la mort que je me souhaite. Vraiment. Et c'est ça aussi, laisser une trace. C'est qu'à la fin de ta vie, tu te dis, tu aimerais, si t'arrives à aller jusqu'à un âge où t'as pu avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, t'aimerais que tout ce monde soit réuni autour de toi par amour, par respect, pour tout ce que tu as donné, pour tout. Moi, c'est ça que, dont j'aurais, la trace que je voudrais laisser, en tout cas, c'est ça, c'est de me dire, j'aurais donné tellement d'amour, j'aurais tellement eu les bons mots, le bon comportement avec mon entourage, que si je vis longtemps, que tous ces gens-là seront là pour me, je sais pas, elle est morbide, l'interview, là. C'est ouf qu'on parle beaucoup de mort, en fait. Mais en même temps, c'est un album que j'ai fait sur un deuil. Hein, donc, c'est oui, c'est pas pour rien qu'à minuit 30, sur l'horloge de la tracklist, il y a Mima, il y a ma grand-mère, parce qu'en fait, elle a vraiment ponctué la création de ce disque. Ça, la mort, c'est un rappel. Ça te fait réfléchir. Ça te fait te questionner et questionner ton monde, en fait. Ça redonne vraiment de la valeur à chaque seconde qui passe, en fait.
C'est la dernière partie.
Oui.
Et je demande donc à toutes les personnes qui t'accompagnent de quitter ce studio.
Mais Skin, il est tout seul en plus.
Eh oui.
Allez, au revoir Stéphane. Bye bye. L'attaché de presse dégoûté qui ne peut pas suivre jusqu'au bout.
Eh non.
Et donc pourquoi ?
Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant une minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Amel.
Arrête ! Mais c'est 10, quoi ce délire ?
9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, open the capsule.
Je voudrais déjà dire à Tom un immense merci. On s'est croisés sur une petite interview qui m'avait vraiment bouleversée. J'avais trouvé ce monsieur très pertinent, très intelligent. Il pose des questions qu'on pose rarement. Donc déjà, merci pour cet entretien qui me permet d'aborder plein de sujets et de pas me sentir à côté de la plaque dans tout ce que j'aborde, en tout cas dans tout ce que je ressens. Je voulais dire à toutes celles et ceux qui m'écoutent, même si vous n'écoutez pas forcément ma musique, j'ai quand même envie de vous souhaiter d'être heureux, d'être en place, d'accepter vos singularités, de ne pas avoir peur de pleurer, d'avoir du chagrin, de pas vous sentir pas tout le temps calé avec ce qui se passe autour de vous. Si vous vous sentez différent, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes. En tout cas, je préfère profiter de ce moment parce que je reçois énormément d'amour, donc j'ai envie d'en donner. Alors voilà. Aimez-vous, choisissez-vous.
C'est très chelou. Au revoir, Stas.